Voici cet ordre de Jean-Baptiste. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. J'ai toujours eu un peu de mal avec ce commandement, cet ordre. J'y trouve quelque chose à la fois de moralisateur, comme un mauvais enseignant qui dit « Tu arrêteras de faire cela, change d'attitude !» avec un soupçon de menace, comme on entendait parfois certaines prédications disant « Repentez-vous, la fin du monde est proche » sous-entendu, bientôt le jugement terrible va arriver et il serait donc temps que vous changiez. En fait, en cherchant bien ce que Jean-Baptiste a bien voulu dire, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait là-dedans tout un faisceau d'incompréhension, voire même des trahisons graves qui ont été insidieusement glissées par la tradition de l'Église dans cet ordre. D'abord, la conversion. La conversion, aujourd'hui, a changé de sens, si l'on peut dire, parce que pour nous, aujourd'hui, se convertir, cela veut dire changer de religion. Donc les catholiques se convertissent au protestantisme, les protestants se convertissent au catholicisme, etc. On sait bien que, et cela est bien connu, je dirais, que dans la Bible, le mot de conversion ne signifiait pas cela. Cela ne voulait pas dire changer de religion, mais cela indiquait une démarche spirituelle que chacun devait faire dans sa propre religion. Et en effet, par le mot conversion, il faut entendre la même chose que l'on entend quand on fait du ski. Une conversion à ski, c'est qu'on va dans un sens, on fait une conversion, c'est-à-dire qu'on fait demi-tour et on va dans l'autre sens. D'ailleurs, le terme biblique, le terme hébraïque pour désigner la conversion, c'est shuv. Et shuv, ça veut dire se retourner. On se retourne, c'est-à-dire qu'on fait demi-tour. Alors en effet, le mot, donc cette injonction de conversion est bien comprise dans ce sens. Cela veut dire faire demi-tour, autrement dit reconnaître que l'on s'est égaré, que l'on va dans la mauvaise direction, reconnaître que l'on s'est éloigné de Dieu pour retourner vers Dieu. Cela est plus important qu'il n'y paraît, parce que cela montre que l'essentiel, c'est la direction dans laquelle on se tourne. Et je pense que là, il y a en effet quelque chose de très fort sur lequel on peut insister peut-être. C'est que l'important, c'est plus l'endroit vers lequel on se tourne que le lieu où l'on est. Et Jean-Baptiste ne dit pas « cessez d'être pécheurs pour devenir des gens bien et des gens justes et purs et bons ». Il dit simplement « retournez-vous », c'est-à-dire « tournez votre regard dans une autre direction ». Et nous sommes là dans quelque chose qui est très cher à la pensée de la Réforme, c'est-à-dire le salut par la foi et non pas par les œuvres. Parce qu'en effet, quand on parle du salut par la foi, il n'est pas question, dans le mot foi, d'entendre l'émotion religieuse, comme s'il suffisait d'être quelqu'un de très mystique et d'être pénétré du sentiment de la présence de Dieu pour être sauvé. La foi dont il est question dans le salut par la foi n'est pas l'émotion religieuse, mais elle est de l'ordre de la conviction et justement de la visée, du regard, du lieu vers lequel on pointe son regard et de savoir finalement en quoi l'on croit. Et ce qui nous sauve, ce n'est pas ce que nous sommes ou ce que nous parvenons à être, mais ce qui nous sauve, c'est la direction dans laquelle nous regardons. Et donc vous voyez que le commandement de Jean-Baptiste est très essentiel. Il ne demande pas aux gens d'arriver à cesser d'être pécheurs, mais bien de se tourner dans la bonne direction. Je pense que dans ce sens, le message de l'Évangile est très original, parce que pratiquement, dans aucune autre religion, on ne trouve cela. Et les religions de l'Inde, par exemple, pour généreuses qu'elles soient, fondamentalement, présente l'homme dans une sorte de difficulté fondamentale, mais comme s'il n'y avait pas d'autre issue pour lui que progressivement de parvenir au détachement. L'Évangile ne dit pas qu'il faut parvenir au détachement ou de parvenir à l'amour ou au pardon, mais de tourner ses regards vers là, c'est-à-dire d'y croire. Le mot grec qui a été utilisé pour traduire cette notion de retournement, c'est le mot, l'ordre, c'est la métanoïa. Métanoïté, dit le Nouveau Testament, cela veut dire, noïa c'est la pensée, la noiesis c'est la pensée, donc métanoïa c'est changer de pensée. Donc le grec a bien évidemment eu l'idée qu'il s'agissait de changer d'idée. Et d'ailleurs certaines traductions modernes ont enlevé ce « convertissez-vous » difficile pour mettre « changer de comportement ». Ou d'autres, la Nouvelle Bible Second, met « changer radicalement ». Je pense que là on est plus dans l'ordre du commentaire que de la traduction et je le déplore. Mais néanmoins, l'idée du mot grec « métanoïté », c'est bien cela, c'est « changer d'état d'esprit, changer votre façon de voir les choses ». Et là encore, il y a quelque chose peut-être d'important. Changer sa manière de voir. Je pense que la façon de voir le monde, la façon de se voir soi-même, la façon de concevoir les autres, est peut-être aussi ce qu'il y a de plus fondamental, de plus moteur, de plus central, je dirais, dans notre existence. Et finalement, c'est là que tout se détermine. C'est la question du regard. On a dit par exemple récemment qu'il ne fallait pas traiter des enfants mal élevés ou désobéissants comme des criminels, parce que si la société a sur eux un regard, et si on les regarde comme des criminels, ils deviendront criminels. Mais j'irai plus loin en disant que certainement le regard qu'ont les autres sur nous nous rend finalement à l'image du regard que l'on a sur nous, mais aussi le regard que nous avons sur nous-mêmes. Et le regard que nous avons sur les autres a une importance beaucoup plus déterminante qu'on ne le pense. Alors donc, plutôt que de meubler sa vie par des bonnes œuvres, en se disant « il faut que je sois souriant avec les gens, que je sois aimable », il vaut mieux changer son regard sur les autres. Et donc on n'est pas au niveau des œuvres, mais au niveau de la racine même, je dirais de la manière avec laquelle on se positionne par rapport à l'autre. Regarder l'autre avec le regard même de Dieu. Le regarder non pas comme nous pensons qu'il est, mais comme Dieu le voit. Regarder l'autre en voyant ce qu'il y a de bon, d'éternel, d'amour, de lumière en lui, plutôt que de voir le mal qui est en lui. Quand on regarde une chose, la chose devient comme on la voit et comme elle est vue. Et donc notre regard, effectivement, est créateur. Sur nous-mêmes, la chose est importante aussi, parce que comment nous construisons-nous? Si nous nous construisons seulement à partir du regard des autres, du regard de la société, alors notre vie est extrêmement dangereuse, parce que quelle image les autres ont de nous? Ils ont l'image, peut-être parfois un peu trop juste, de ce que nous réussissons à faire, de ce que nous avons parvenu à réaliser. Et donc les autres ont de nous l'image, je dirais, d'un chômeur, l'image d'un vieillard, l'image d'un divorcé, l'image d'un alcoolique. Et ce sont ces images qui nous tombent dessus et qui nous identifient, pas souvent, à ce qu'il y a de meilleur en nous. Et peut-être y a-t-il justement, dans la foi, dans la vie spirituelle, une façon de se détacher du regard de l'autre pour se placer sous un autre regard, et sous le regard d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de tendresse, d'un Dieu créateur, et de savoir que nous ne sommes pas sous un regard, je dirais, d'une société qui nous accule dans nos défauts, dans nos échecs, dans nos ratés, mais sous un regard d'un Dieu qui, lui, nous regarde d'une façon belle, d'un regard plein de tendresse, plein d'amour, plein de confiance en nous, plein d'espérance. Et je crois que c'est en cela peut-être que notre foi justement dans le Dieu de l'Évangile peut nous transformer et peut nous créer en être neuf, parce que finalement nous finissons par ressembler et par devenir à l'image de ce que nous croyons que nous sommes vus. Et nous finissons par devenir à l'image de ce Dieu dans lequel nous croyons. Et si nous croyons dans une société impitoyable, nous devenons des êtres pitoyables. Si nous plaçons au contraire sous un regard d'un Dieu d'amour et de confiance, nous pouvons grandir dans l'amour et dans la confiance. Et donc je pense que, vous voyez, ce petit commandement, convertissez-vous, métanoïté, en dit infiniment plus que ce que nous pensons. C'est justement de changer sa façon de voir. C'est à cela que le Christ nous invite, bien plus que d'obéir à une loi morale. Et pour cela, je pense qu'il est bon de se le rappeler chaque année. Parce que la conversion, c'est quelque chose à faire sans arrêt. Et je déplore que certains chrétiens parlent de leur conversion comme d'un événement passé. Certains disent, moi, je me suis converti en 1987, voire même le 12 mars 1975, ou je ne sais quoi. La conversion n'est pas un événement passé. La conversion, c'est quelque chose que nous devons faire sans arrêt. Nous devons sans arrêt nous retourner vers Dieu. Et la vie n'est qu'une façon de se tourner et de se retourner. Il y a d'ailleurs de très nombreux psaumes qui vont dans ce sens, en particulier dans les psaumes des montées, après le psaume 120 et quelques, ces psaumes de déportation. Quand l'Éternel fit revenir les déportés de Babylone, eh bien en hébreu, c'est quand l'Éternel fit se retourner les détournés de Jérusalem, de Babylone. C'est-à-dire que la déportation, c'est un détournement et il faut retourner. Et toute la théologie biblique, je dirais, de l'exil, tourne sur ce thème d'une façon d'être détourné et de retourner. Cela étant dit, on peut rentrer encore plus en profondeur dans ce commandement de Jean-Baptiste qui est bien plus intéressant qu'il n'y paraît. C'est qu'un certain nombre de traductions traduisent cet ordre de Jean-Baptiste par « repentez-vous ». Repentez-vous. La repentance est en effet une autre manière, je dirais, de comprendre cette démarche. Et il est vrai que la démarche de Jean-Baptiste, je dirais, va dans ce sens, dans le sens d'une repentance. La repentance, c'est de reconnaître son péché, c'est-à-dire de le confesser. Alors là encore, le mot confesser est un mot qui a perdu son sens. Confesser veut dire, au sens propre, reconnaître. C'est pourquoi on peut confesser sa foi, parce qu'on dit publiquement sa foi, et on peut confesser son péché quand on dit publiquement son péché. Ou on peut confesser que Jésus-Christ est le Seigneur, cela veut dire que l'on dit publiquement que Jésus-Christ est le Seigneur. Donc effectivement, Jean-Baptiste invitait les fidèles à confesser leur péché, c'est-à-dire à reconnaître leur faute. Je pense qu'il y a là aussi quelque chose qui a été mal compris. Ça a été souvent interprété dans un sens moral. Il faut faire la liste de ses fautes, faire la liste de ses erreurs morales, comme si Jean-Baptiste disait « Reconnaissez que vous avez fait ci, que ça n'est pas bien, que vous avez eu tort, et puis changez de comportement, c'est-à-dire ne le faites plus. » Je pense que la prédication de Jean-Baptiste n'est pas du tout dans ce sens. Bien sûr, il peut y avoir une dimension morale qui consiste à reconnaître ses fautes, mais vous savez que les protestants, plutôt que de parler de confession des péchés au pluriel, est mieux parler de confession du péché au singulier. C'est-à-dire de voir le péché comme une attitude profonde et fondamentale, et que notre problème, ce ne sont pas nos multitudes de petites erreurs, c'est notre mauvaise disposition mentale et spirituelle à l'égard des autres et à l'égard de Dieu. Par conséquent, confesser son péché, c'est reconnaître son imperfection fondamentale. Reconnaître qu'en nous, il y a de l'imperfection, il y a du défaut en quelque sorte, et quelque chose qui nous manque. Peut-être qu'en effet, de confesser ses péchés au pluriel peut être un bon point de départ, je reconnais que je fais des tas d'erreurs, et plutôt que d'insister sur ces erreurs, cela doit m'inciter à reconnaître mon péché au singulier, c'est-à-dire reconnaître que j'ai besoin, moi, de progresser, que j'ai besoin que l'on m'aide, que j'ai besoin de Dieu, en quelque sorte. Et donc, effectivement, nous pouvons, à partir de cette démarche, je dirais, de pénitence, de reconnaître son péché, du coup, vouloir recevoir ce pardon de Dieu, aspirer au pardon de Dieu. Et Jean-Baptiste, effectivement, annonçait ce pardon de Dieu, et il le symbolisait par le plongeon dans l'eau, qui était ce baptême, l'eau qui lave, l'eau qui purifie. Et certainement qu'on voit que cette idée de métanoïa, de conversion, va nécessairement de pair avec la reconnaissance de sa propre imperfection et cette espèce de dynamique qui est créée en soi par là, qui nous pousse à désirer même le pardon. Certainement d'ailleurs que ce baptême de Jean, contrairement à ce que l'on pense, n'était pas un baptême fait une fois pour toutes, comme le baptême chrétien aujourd'hui. Certainement que c'était un baptême que l'on pouvait répéter régulièrement, comme tous les rites d'ablution dans le judaïsme. Et là encore, il faut sans arrêt reconnaître sa faute et sans arrêt accepter de recevoir le pardon, mais être capable de désirer ce pardon, de désirer cette aide de Dieu est déjà une chose essentielle. Mais il y a encore autre chose sur cette pénitence. Et là, je vais vous dire quelque chose que j'ai découvert et qui n'est pas très connu. Enfin, je ne l'ai vu nulle part, pour tout vous dire. C'est que quand on se demande d'où vient le mot pénitence, faites pénitence. Pénitence qui est le mot qui est à l'origine de la repentance. La repentance veut dire refaire pénitence, en quelque sorte. Et la pénitence, c'est le troisième mot dans nos traductions. Il y a « convertissez-vous », « repentez-vous » et dans certaines traductions « faites pénitence ».« Faites pénitence », c'est comme cela qu'avait traduit la Vulgate, la traduction latine de la Bible. « Penitentiam agite », « faites pénitence ». Et donc, si on se demande d'où vient le mot « pénitence », là, on tombe sur des choses intéressantes. C'est que, quand on regarde toutes les Bibles en latin d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez souvent des Bibles en latin, vous devriez, c'est extrêmement instructif. On se rend compte que ce « penitentiam agite » est écrit « P-O-E, P-O-E, O-E dans l'eau, N-I-T-I-E-N-T-I-A-M, penitentiam, P-O, non poenitentiam. Bon. » Et du coup, on nous dit « pénitence », ça vient de « poena » en latin, qui est « la peine que l'on inflige aux coupables ». Et c'est comme ça depuis effectivement un bon nombre de temps où on pense que la question de la pénitence est fondamentalement liée à la question de la peine. Et d'ailleurs, dans le christianisme, je dirais populaire et médiéval, quelqu'un qui confessait son péché, on lui infligeait une pénitence. On lui disait, pour pénitence, vous marcherez à genoux jusqu'à tel endroit, vous réciterez je ne sais quelle prière, vous donnerez de l'argent à des pauvres ou à l'église. C'est-à-dire qu'on considérait que la confession du péché infligeait une peine. Et faire pénitence, c'est accepter de payer le prix de son péché. Eh bien ça m'a toujours semblé curieux parce que précisément, Jean-Baptiste ne demandait aucune peine. Au contraire, à ceux qui reconnaissaient leur faute, il les plongeait dans l'eau et sans aucune autre question, il leur disait « Dieu te pardonne ». Sans aucune autre question, sans même leur demander des promesses, sans leur dire « Promets-tu de ne plus pécher, promets-tu d'être sage, de ne pas recommencer ?» Il disait « Tu reconnais ta faute, eh bien moi je te dis le pardon de Dieu et c'est tout. » Ça c'est assez extraordinaire quand même. Et donc ce que j'ai découvert c'est la chose suivante. C'est que si vous prenez une Bible en latin datant, je dirais, d'avant le XVIIIe siècle, vous verrez que le penitentiam agite n'est pas du tout écrit P-O-E, mais est écrit P-A-E, paenitentiam agite. Et j'ai vérifié que d'ailleurs dans les bons dictionnaires, comme sur Internet le dictionnaire Le Trésor de la langue française, cite quand même cette chose-là. Et il dit la pénitence, à l'origine ça venait de paena, avec un A-E dans l'A, et que par contamination, par poena, la peine, ça s'est écrit finalement pénitentia avec un O. Eh bien, ce changement est très étonnant, parce que je crois que c'est justement une perversion de la tradition religieuse qui a voulu nous suggérer l'idée de punition et de peine dans la notion de repentance. Alors maintenant, que veut dire paena? Et pourquoi la pénitence viendrait de paena? Eh bien, j'ai cherché encore dans les bons dictionnaires et on nous dit que paene, en latin, ça veut dire à peine, presque. Ça, c'est assez intéressant. À peine, presque, presque quelque chose qui n'est pas tout à fait quelque chose. Comme la péninsule, c'est une presque île, ou comme le pénultième, c'est le presque dernier. Et donc, paene, ça veut dire presque. Et du coup, on peut dire que la pénitence, c'est reconnaître que l'on n'a pas été tout à fait ce que l'on aurait dû être. Reconnaître que l'on est à peine ce que nous devrions être. Autrement dit, reconnaître en soi le manque de quelque chose. Et je crois que nous sommes là beaucoup plus près de la théologie de cette conversion, de cette repentance. C'est qu'il est beaucoup plus l'essentiel dans cette chose-là. Ça n'est pas, je dirais, de reconnaître des excès de défauts, mais c'est plutôt de reconnaître ses manques, de reconnaître les creux de son existence, reconnaître ce qui nous fait défaut d'une certaine manière, plus que de reconnaître ses défauts. Et je crois que tout l'Évangile aussi nous pousse à aller dans ce sens. Il ne s'agit pas en tant que chrétien de rester d'une façon continue crispé, cristallisé sur ses défauts, sur ses culpabilités. Mais justement, l'Évangile, à la base, doit libérer des culpabilités. Et ça, c'est le sens du message de Jean-Baptiste. Plutôt que de nous cristalliser sur nos défauts, et même, eh bien, il nous en libère, et il dit « vous êtes pardonnés ». Et je crois que la prédication chrétienne, plutôt que de culpabiliser, devrait plutôt, je dirais, se concentrer sur le bien qui est en nous, bien sûr, mais aussi sur ce qui nous manque, parce que le manque est une chose fondamentale. Parce que le manque, c'est ce qui crée une dynamique. Le manque, c'est le vide. Et, comme on dit, la nature a horreur du vide. Et donc, s'il y a un vide, il y a une aspiration. Et l'aspiration, c'est s'ouvrir à quelque chose d'autre. Et s'il y a un vide, s'il y a une aspiration, cette aspiration va aspirer ce qui est en face de nous. Et si nous nous tournons vers Dieu, nous aspirerons Dieu. Et s'il y a en nous un vide et que nous nous tournons vers celui qui est l'amour, l'espérance, la bonté, le pardon et la tendresse, nous nous remplirons d'amour, de bonté, de douceur et de tendresse. Et donc c'est bien cela. Faites pénitence. Reconnaissez ce qui vous manque. Ouvrez-vous à Dieu. Apprenez à aspirer à Dieu. Faites de la place pour accueillir l'autre, pour reconnaître votre manque et votre besoin de Dieu. Et il se trouve que tout le temps de l'Avent est justement construit là-dessus. Il s'agit d'apprendre à accueillir Dieu. Avec cette prédication de Jean-Baptiste qui dit « Préparez les chemins du Seigneur, nivelez la steppe, abaissez les collines, érasez les montagnes », il faut préparer les chemins du Seigneur. Et pour préparer les chemins du Seigneur, il ne faut pas s'appuyer sur sa culpabilité. Les montagnes d'égoïsme, de défauts, d'échecs et d'erreurs qu'il y a devant nous, il faut les araser. Il ne s'agit pas non plus de s'appuyer sur ses qualités, mais de prendre ses aspirations comme la source de notre dynamisme. Et cela peut sembler paradoxal, mais s'appuyer sur un vide, s'appuyer sur un manque, c'est justement le seul moyen pour sortir de soi et pour aller en quête vers l'autre, pour aller en quête vers Dieu et vers les autres. Cela est un thème extrêmement courant dans l'Évangile. Dans les Béatitudes, le Christ nous dit « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit ». Il ne dit pas « Heureux ceux qui ont une foi extraordinaire », etc. « Heureux ceux qui sont pauvres spirituellement ». Parce que celui qui est pauvre spirituellement, il a des chances de recevoir de celui qui est plus grand que lui, c'est-à-dire de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Il ne dit pas heureux ceux qui sont rassasiés de justice, ceux qui débordent de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux celui qui a un creux en lui, un désir fondamental qui l'incite à aller justement dans la quête. Et dans l'Apocalypse, où il nous dit « Parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu, malheur à toi parce que tu te crois riche et comblé de tout. » Il y a un troisième sens caché à cet appel de Jean-Baptiste. Le troisième sens caché, il est un peu plus compliqué à trouver. C'est le suivant, c'est qu'en hébreu, il y a deux mots pour désigner la conversion et la repentance. Le premier, je vous l'ai déjà dit, c'est « chouv », se retourner sur soi-même, c'est un mot très, très concret. C'est la conversion, d'accord. L'autre mot, c'est « naham ». Et « naham », c'est le mot qui est utilisé, par exemple, en Genèse 6,6, quand on nous dit « l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme ». Il se repentit, il regrette. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que « naham » veut dire « regretter », se repentir, effectivement, mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire consoler. Ça, c'est extraordinaire. Et en hébreu, le même mot veut dire se repentir et veut dire consoler. Et c'est là où ça devient plus intéressant. C'est que Jean-Baptiste cite ce texte d'Ésaïe, « Préparez les chemins du Seigneur ». Or, ce texte d'Ésaïe, utilisé par Jean-Baptiste, le roi de la repentance commence par ces mots « Nahamu, Nahamu, ami ». Ça veut dire « consoler, consoler mon peuple ». C'est-à-dire deux fois le verbe « naham » qui est traduit partout ailleurs dans la Bible par « repentez-vous ». C'est quand même étrange, ça. Ça veut dire donc qu'effectivement, nous sommes là bien dans à la fois la repentance, mais que la repentance est inséparable de la consolation. Et la consolation, c'est ce si beau texte d'Ésaïe qui dit « Parlez au cœur de Jérusalem, dites-lui que sa peine est terminée, qu'elle a payé comme au-delà de ses fautes et qu'elle est graciée. » C'est-à-dire que justement, on est dans la grâce, on est dans le pardon, on est dans la libération. Tout sauf la culpabilité, tout sauf le commandement moral qui dit « Allons, hein, j'espère que vous allez changer maintenant. » Tout sauf cela, c'est la consolation. Et je trouve ça extraordinaire. Il n'y a en effet pas de menace. Il n'y a pas de menace. Et quand Jean-Baptiste dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché », c'est tout sauf « Repentez-vous, pécheurs, car la fin du monde est proche et le jugement est là ». Ce n'est pas cela du tout. C'est « Je vous console, consolez-vous, consolez-vous ». Abandonnez votre peine, abandonnez votre culpabilité, abandonnez votre tristesse, abandonnez votre désespoir, abandonnez tout cela et simplement consolez-vous. Soyez joyeux, soyez libérés, soyez heureux parce que vous êtes pardonnés. Oui, le pardon est premier, la grâce est première. Et avant de dire « convertissez-vous », il faut dire « vous êtes pardonné ». Et cet appel à la conversion ne peut pas se faire par des menaces. Il ne peut pas se faire par quoi que ce soit de culpabilisant. Il ne peut se faire que si a été entendue la première parole qui est celle de la grâce et de la consolation. Et donc je crois qu'il y a là quelque chose qui va même dans le sens du nom. Vous savez que Jean-Baptiste s'appelle Jean, et que Jean, ça veut dire Yohanan, ça veut dire la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. La grâce est partout dans ce texte. C'est quand même incroyable que 2000 ans de prédication populaire aient réussi à transformer ce message de grâce si extraordinaire dans une espèce d'injonction moralisatrice et dans une espèce de couperet culpabilisant. C'est dramatique. Jean-Baptiste, Yohanan, Dieu fait grâce. Jean-Baptiste, qui est habillé d'un pagne de cuir et d'un vêtement de poil. Son habit n'est pas du tout plus celui d'Élie que d'un autre, c'est l'habit de tous les prophètes. Les prophètes étaient habillés de poil comme Adam qui sort du paradis, vêtu par Dieu d'un vêtement de cuir et d'un vêtement de poil. Et pourquoi ? Parce que là encore, quand l'homme se retrouve pécheur, quand l'homme prend conscience de son péché, la première chose que fait Dieu, c'est de cacher ce péché, de lui donner un vêtement pour lui dire « Allez, on n'en parle plus, on ne regarde pas le péché, on s'en fiche du péché, on n'en parle plus, je le cache. » C'est Dieu qui le cache, c'est Dieu qui le masque et qui donne encore une fois ce pardon. C'est Dieu qui a couvert lui-même l'imperfection d'Adam après le péché originel, sans rien lui demander en échange. Eh bien, je crois que tout ça, effectivement, est la façon de préparer les chemins du Seigneur. Tout ça, c'est la base à rappeler pour pouvoir avancer. Et ces chemins du Seigneur, ce n'est pas simplement le nôtre, c'est le nôtre vers Dieu, mais c'est peut-être plus encore le chemin de Dieu qui peut avancer et agir en nous. Préparer les chemins du Seigneur. Parce que nous avons aussi un chemin à faire, sûrement. Un chemin de préparation. Notre rôle à nous, c'est plus un travail, d'attendrissement de notre être. Notre travail à nous, c'est un travail de labourage. Nous devons labourer notre propre terre pour être capables de recevoir la semence de Dieu. C'est tout. On ne nous demande pas de faire nous-mêmes la perfection terrestre. La participation de l'homme, elle n'est pas absente, mais je crois qu'elle est minimale. Et justement, ce message de Jean-Baptiste, c'est de dire que ça n'est pas à nous de réussir, ce n'est pas à nous de faire une performance. La vie spirituelle n'est pas de l'ordre de l'exploit, mais c'est de se tourner dans le bon sens, d'admettre, de reconnaître qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui agit en moi et de laisser un plus grand que moi agir en moi. Et donc cet appel de Jean, il est effectivement certainement de ne pas rester les deux pieds dans son problème, de vouloir en sortir, mais aussi de ne pas vouloir en sortir tout seul. Accepter d'avoir besoin des autres, d'avoir besoin de Dieu, avoir besoin d'aide, parce que Dieu est à la fois le but, et il est à la fois le secours pour y arriver. Et ainsi, cet appel à la conversion, il est peut-être aussi avant tout un appel à la consolation. Et c'est comme cela que Jésus-Christ, que Jean-Baptiste nous prépare à pouvoir, d'un esprit libre et joyeux, entendre tout l'évangile qui suit, tout l'évangile de Jésus-Christ, qui ne peut être reçu que dans un esprit de consolation, de repentance, de conversion, de pénitence, mais tout cela pris dans le sens de la grâce. Amen.